Canopod, focus sur l'actualité environnementale.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Canopéa. Alors l'idée, c'est de prendre un sujet lié à l'actualité environnementale une fois par mois et d'essayer d'aller un peu creuser avec un de nos spécialistes maison. Cette semaine et ce mois-ci, on a le plaisir de pouvoir discuter avec Agathe de Fourny, qui est notre spécialiste maison sur les matières liées à l'eau. Gros sujet que l'eau et que l'environnement. Donc on va passer aujourd'hui une demi-heure pour essayer d'aborder les différentes problématiques environnementales liées à l'eau en Wallonie. On commence tout de suite.
Ok, je suis prête.
Alors, voilà, Agathe, on va commencer par le commencement pour ceux qui nous écoutent. L'eau du robinet en Wallonie, elle vient d'où ?
Alors, l'eau du robinet en Wallonie, elle vient de Wallonie. Il y a 80% de notre eau, donc l'eau du robinet, qui vient des masses d'eau souterraines qu'on a en Wallonie. Donc, principalement en SB, dans Condro, c'est vraiment là, et dans le Brabant, les Sables Bruxellois.
SB et Condro.
Ouais, SB, Condro,
Brabant. Moi, j'aurais imaginé que c'était plutôt en Ardennes.
Non, en Ardennes, on n'a pas beaucoup de réserves d'eau souterraine, justement. On a beaucoup d'eau de surface, mais on a un sous-sol qui ne se prête pas vraiment au stockage de l'eau. Ça, c'est vraiment plus le cas vraiment dans, au nord du Sillon Sambre-et-Meuse, où on a des aquifères, donc des roches qui sont vraiment capables de stocker de l'eau. Donc, c'est vraiment là qu'on a nos plus grosses réserves d'eau souterraine. Et c'est 80% de l'eau du robinet vient de cette eau souterraine. Les autres 20%, c'est de l'eau de surface, là, qui viennent d'Ardennes, principalement des barrages de la Gilep.
On va y revenir, du coup. Mais alors, du coup, les réserves d'eau principales de la Wallonie, elles sont juste en dessous de l'endroit où on cultive le plus en Wallonie, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ce qui pose pas mal de problèmes en termes de contamination de ces eaux. Donc, quand on parle vraiment de la qualité des eaux brutes, donc des eaux souterraines, on a vraiment maintenant un tiers des masses d'eau qui sont en mauvais état chimique, parce qu'il y a des pollutions.
Alors, mauvais état chimique, qu'est-ce que tu entends par là?
Mauvais état chimique, c'est des concentrations en substances qui dépassent des normes.
On parle de quelles substances?
Ici, nitrates et pesticides principalement. Donc c'est vraiment les deux sources de pollution qu'on retrouve, les deux sources qui font que les masses d'eau sont plus en bon état. Donc 30% de nos masses d'eau sont plus en bon état parce qu'il y a des concentrations en nitrates, donc en engrais, et en pesticides qui sont au-delà des normes environnementales. Ce qui fait que du coup, quand on capte ces eaux, il va falloir qu'elles soient traitées avant de pouvoir être mises dans le réseau de distribution pour qu'elles puissent à nouveau respecter les normes avant d'être mises dans le réseau de distribution. Et donc tu l'as très bien mentionné, en fait, la région dans laquelle on a le plus de ces réservoirs d'eau, c'est aussi la région où l'agriculture est de plus intensive, où on a vraiment une utilisation massive d'engrais et de pesticides qui se retrouvent en fait in fine dans l'eau et qui altèrent la qualité de celle-ci.
Et alors, donc toute l'eau qu'on vient du robinet, elle vient de ces eaux souterraines, ou bien il y a une partie qui vient aussi, je sais pas, des rivières, des lacs?
Donc il y a une partie qui vient des eaux de surface, c'est les autres 20%, et là c'est pas spécialement des rivières, des lacs, c'est plutôt des barrages. On a des barrages en Ardennes, donc Nisramont, la Gilep, qui sont utilisés pour produire de l'eau potable. Donc là c'est vraiment de l'eau de surface qui va être aussi repotabilisée. On va pas la mettre comme ça directement dans le réseau, elle va subir un traitement. Et puis elle va être mise dans le réseau de distribution. Mais la majeure partie de ce qu'on boit au robinet, c'est de l'eau souterraine.
C'est de l'eau souterraine, ouais. Donc qui vient plutôt de SB et...
SB, Brabant, Condro.
Du Condro.
Ouais.
Et donc on observe que ces eaux souterraines, dans le SB et le Condro, elles sont de plus en plus polluées. C'est quelque chose qui continue à se dégrader, c'est la qualité des eaux souterraines?
Alors en termes de nitrates, on observe une stabilisation. Donc il y a une augmentation hyper forte sur les 20-30 dernières années. Maintenant, on observe une stabilisation, mais on observe une stabilisation au point haut. Donc, il n'y a plus d'explosion, mais on reste quand même à des concentrations qui sont hyper élevées, qui sont du coup au-delà de la norme de potabilité. Donc, voilà, les eaux doivent être traitées avant d'être mises sur le réseau. Pour les pesticides, chaque année, on découvre une nouvelle substance problématique, si tu veux, tu vois. Et donc, on est tout le temps un peu une guerre en retard, parce que quand on se rend compte qu'en fait, une substance qui est utilisée en surface, on la retrouve dans les eaux souterraines, en général, il se prend 10 à 15 ans pour qu'on voit ce phénomène-là, parce que le phénomène d'infiltration, il est super lent, donc avant qu'on sache que en fait cette substance qui est utilisée en surface, on la retrouve dans l'eau, ça prend du temps. Et puis donc du coup, au moment où on la voit dans l'eau, qu'on se rend compte que les concentrations augmentent, qu'il faudrait faire quelque chose, on a déjà 15 ans de retard, cette substance, elle a été utilisée pendant 15 ans.
Mais c'est un peu flippant ce que tu racontes là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des substances qui sont sans doute émises aujourd'hui, qui se retrouvent dans les eaux,
ouais.
Et qu'on retrouve à la fin dans notre robinet.
Alors, on les retrouve pas dans l'eau du robinet spécifiquement, on les retrouve dans les eaux brutes, on les retrouve dans l'eau souterraine. Donc là, on voit vraiment que les concentrations augmentent. Maintenant, les distributeurs d'eau, ils sont obligés de respecter des normes de potabilité. Et donc pour ça, s'ils constatent qu'ils ont une eau qui est trop polluée, ils ont trois solutions. Soit ils abandonnent ce captage d'eau-là en disant, en fait, cette eau elle est trop polluée, on peut rien en faire. Soit ils diluent cette eau-là, ils prennent un captage qui n'est pas contaminé avec un captage qui est contaminé, ils mélangent les deux eaux et donc ça fait baisser la concentration et donc on repasse en dessous de la norme. Soit alors, ils mettent en place une station de potabilisation où l'eau souterraine va passer dans cette station pour subir tout un tas de traitements. Elle va passer sur des filtres à charbon actif qui vont permettre de capter les substances de pesticides qui posent des problèmes pour de nouveau atteindre du coup, les normes de potabilité. Mais tout ça, ça a un coût. Ces stations de potabilisation, elles ont un coût énorme, à la fois financier mais aussi environnemental puisqu'elles consomment vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Et ça, pour le moment, c'est financé par la facture du consommateur d'eau. Donc, c'est-à-dire que le consommateur d'eau, quand il paye le prix de son eau, quand il paye sa facture d'eau, il va payer pour ce traitement. Et donc, il va payer pour repotabiliser une eau pour laquelle il n'est pas du tout responsable de la contamination au départ. Quoi.
Et donc, ok, on va revenir à la question du prix un peu plus tard, si tu veux bien. Mais tu me dis que... Il y a des réserves, il y a des nappes souterraines qui sont trop polluées parfois. Est-ce que c'est déjà arrivé? On a déjà des cas de nappes souterraines qui ont été abandonnées parce qu'elles étaient trop polluées?
Pas des nappes complètes, mais des captages. Donc il faut, quand on parle de souterraines, il faut un peu enlever cette image de, en fait, c'est des grands lacs souterrains où tout communique. On est vraiment plutôt dans des... Tu dois plutôt voir ça comme une éponge, en fait. Tu vois, un sous-sol avec plein de petits trous qui sont saturés en eau. Et donc, c'est possible que tu aies certaines concentrations dans une même nappe très importantes à un endroit, puis moins à d'autres. Tu vois, l'eau, elle ne circule pas de manière très, très libre. Donc, ça existe. Il y a déjà plusieurs captages qui ont été abandonnés, des forages qui étaient utilisés par des producteurs d'eau qui ont été abandonnés, qui sont maintenant plus utilisés. Ils existent toujours, mais ils ne sont plus utilisés parce que les concentrations sont trop élevées et le volume produit par ce captage ne justifiait pas de mettre en place une station de repotabilisation derrière. Ouais.
Et bon, est-ce qu'il y a un risque demain, on n'ait plus d'eau souterraine utilisable, buvable, exploitable en Wallonie, ou bien on n'en est pas encore là? C'est un peu catastrophiste.
En termes de quantité, non, il n'y a pas de risque. Donc pour le moment, on a des ressources en Wallonie qui sont... On est vraiment c'est un peu l'or bleu de la Wallonie,
le
c'est un peu notre...
bleu de l'Europe du Nord.
L'atout charme de la Wallonie, c'est clairement les réserves en eau. Pour le moment, ça va. Sur les 34 masses d'eau qu'on a, il n'y en a qu'une qui est en mauvais état en termes de quantité. Donc là, on sait qu'on capte plus que ce que la nappe peut se recharger. Maintenant, c'est pas tout rose parce que sur les autres nappes, il y en a plusieurs pour lesquelles on voit des dégradations. On n'est pas encore dans le rouge, mais on voit que maintenant, le volume qui est pompé est légèrement supérieur à ce que la capacité de la nappe à se recharger, quoi. Donc en termes de quantité, c'est pas, je veux dire, le risque le plus imminent. Par contre, en termes de qualité, là, on voit vraiment des dégradations. Alors maintenant, on est un peu dans cette philosophie où on dit on peut traiter, donc on peut soigner le problème. Tu veux, l'eau est polluée, mais c'est pas grave, on peut la traiter derrière, ça coûte cher, oui, c'est vrai, mais on peut le faire. C'est un peu la philosophie qui a été mise en place ces dernières années. Et moi, je plaide vraiment pour qu'on puisse avoir une réflexion beaucoup plus en amont sur comment réduire ces pollutions à la source, parce que ça me semble pas du tout durable de dire qu'on va continuer à polluer l'eau comme on le fait, puisque de toute manière, on peut la traiter derrière. Quoi.
Parce qu'on parle évidemment beaucoup de l'eau du robinet, parce que bon, c'est un peu égoïstement ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tant que consommateur.
Ouais.
Mais c'est vrai que quels sont les impacts à plus long terme d'avoir des nappes phréatiques qui seraient polluées à plus long terme? Ça impacterait la biodiversité, ça affecterait la nature
Les impacts sur... vraiment en termes d'eau souterraine, c'est vraiment l'eau du robinet qui pose problème, puisque c'est vraiment là le risque, c'est pour la qualité de l'eau de distribution. Pour tout ce qui touche à la biodiversité et la nature, on est plutôt à l'heure là sur des risques au niveau des eaux de surface, donc vraiment des rivières, des cours d'eau, où là on a des impacts sur la qualité de ces eaux de surface qui sont dus aussi à des pressions agricoles, donc nitrates, pesticides, on les retrouve aussi dans les rivières, dans les eaux de surface. Mais là, on a aussi une pression beaucoup plus importante qui vient des rejets domestiques, donc des rejets de ta maison, qui passent dans le réseau d'égouts. Et puis avant, dans les années 90, il n'y avait pas encore de station d'épuration, et donc tous les rejets domestiques allaient directement à la rivière. Et donc, on hérite un peu de cette situation historique où on a une pollution très forte de nos cours d'eau par des rejets domestiques. Ça a vraiment évolué sur les dernières années. Il y a eu des investissements vraiment massifs qui ont été faits pour mettre en place des stations d'épuration, pour connecter toutes les maisons au réseau d'égouts, pour aider les gens à mettre des stations d'épuration individuelles quand ils étaient trop loin du réseau d'égouts, etc. Donc ça, on voit vraiment que les pressions dues aux ménages sur la ressource d'eau de surface, elles diminuent maintenant.
Et donc, en gros, les cours d'eau en Wallonie ont tendance plutôt à s'améliorer en termes de pollution?
Oui, en termes de pollution, vraiment, on voit une amélioration au niveau des cours d'eau, justement parce que cette charge domestique était la plus importante diminue. Les deux autres pressions, c'est l'agriculture et l'industrie. Alors sur l'agriculture, on ne voit pas vraiment d'évolution, clairement, au niveau des rejets. On a des substances qui sont peut-être moins persistantes, mais à chaque fois qu'il y a une substance pesticide qui est interdite, elle est remplacée par une autre. Donc en termes de quantité de substances, vraiment, on ne voit pas de diminution. Et les rejets industriels, là, il y a des diminutions de certaines substances, mais d'augmentation d'autres substances sur la même période. Donc là, on a vraiment une stagnation aussi, quoi.
Mais c'est pas les mêmes polluants, j'imagine, qui sont émis avant. C'était nos toilettes principalement, hein, pour les eaux qui venaient du secteur.
Bah, disons qu'il y a toujours, eu les trois pressions, donc industrie, ménage et puis agriculture. Mais maintenant, la pression due au ménage, elle diminue très fort, et donc il reste les deux. Donc globalement, la qualité s'améliore puisque cette grosse pression, elle diminue. Mais il reste les deux autres pressions qui sont pour lesquelles on ne voit pas d'évolution significative, clairement.
Mais avec d'autres polluants, j'imagine.
Avec d'autres polluants, oui. Pour
les industriels, ils n'émettent pas la même chose qu'on émettait avec nos toilettes quand il n'y avait pas de station d'épuration.
Non, non, non. Sur les rejets industriels, on est plutôt sur des métaux lourds, hydrocarbures, ce genre de choses, quoi.
Et
solvants chimiques.
En termes d'impact, du coup, est-ce que l'évolution sur la biodiversité dans les rivières, sur les poissons, sur la faune et la flore qui peut exister dans les rivières, on va plutôt dans la bonne direction ou...
Bah, je te dis, ça c'est assez stagnant. Donc l'administration, elle fait ce travail tous les 7 ans, elle doit évaluer la qualité des cours d'eau. Donc elle regarde la qualité chimique des cours d'eau, puis aussi la qualité écologique, justement, en termes de... Elle regarde toute une série d'espèces, comment est-ce que ces espèces se portent. Et ça, c'est assez... voilà, on ne voit pas de franche évolution dans un sens ou dans l'autre, donc c'est assez stable. Par contre, quelque chose qui impacte très très fort la santé des cours d'eau, c'est aussi... leur état écologique, donc c'est-à-dire quelle liberté et quelle naturalité on laisse à ces cours d'eau. Et donc le fait d'avoir tellement anthropisé,
bétonné les berges,
il y a beaucoup de cours d'eau qu'on a soit enterrés quand ils traversaient des villes, ce genre de choses, le fait de les avoir tellement rectifiés. Ça, ça impacte vraiment la qualité des cours d'eau, parce que du coup, ces berges qui sont bétonnées, bah, elles ne peuvent plus servir d'habitat pour toute une série d'habitants de la rivière, tu vois. Et donc ça, clairement, c'est plutôt cet aspect hydromorphologique, aménagement des cours d'eau qui pose problème pour vraiment la survie des espèces, quoi.
Donc en termes de pollution, on est plutôt sur un stand-by.
Ouais.
Mais il y a un autre problème, c'est vraiment l'aménagement, la bétonisation qui fait quoi ? Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'herbe pour aller
faire... Il y a moins de nourriture, il y a moins d'espace pour habiter. Il y a aussi maintenant beaucoup plus d'obstacles en fait, à la traversée des poissons dans les cours d'eau à chaque fois que tu as... un barrage ou peu importe, ben ça empêche vraiment la continuité du cours d'eau.
Et aujourd'hui, on continue à bétonner nos cours d'eau, en fait ?
Alors, clairement, je crois qu'avec les inondations en 2021, on a eu un peu une piqûre de rappel de ce que ça peut impliquer. Où, en fait, à chaque fois que tu... Pourquoi est-ce qu'on bétonne les cours d'eau dans les villes ? Ben, c'est pour limiter les inondations, c'est pour faire des digues qui permettent que si l'eau monte, ben, ça ne gêne pas la ville et la population. Le problème, c'est que ces digues, elles sont toujours construites pour une certaine intensité d'inondation. Et donc, elles vont être valables pour des inondations comme on en observe tous les 20 ans, tous les 30 ans, mais celles de 2021, bah, les digues n'étaient pas du tout dimensionnées pour ça. Et donc là, elles ont vraiment un effet inverse qui fait que du coup, déjà, tu as un peu un oubli de la culture du risque au niveau des populations, puisque bah, on a tellement été protégés de ces petites inondations qu'on ne se rend même plus compte que c'est possible. Mais surtout, elle va avoir un effet de débordement beaucoup plus rapide du cours d'eau et d'accélération du débit dans la rivière à cet endroit-là. Puisque tu as souvent du coup un rétrécissement de la rivière et donc une accélération du flux.
Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire là ? Donc, donc le fait de faire des aménagements pour empêcher les inondations augmente les inondations ?
Quand les inondations sont plus intenses que ce que permet de gérer l'aménagement, alors elles ont un effet pire que mieux, ouais.
Donc jusqu'à un certain point, quand on fait des digues, ça améliore la situation pour quand il y a des petites inondations. Ouais. Et quand il y a des grosses inondations, comme en 2021, ça augmente.
Oui, ça augmente. Et alors ce qui est vraiment important, c'est du coup de permettre de laisser des zones où le cours d'eau va pouvoir prendre toute la place qu'il est censé prendre, remplir vraiment tout le lit qu'il est censé prendre.
Mais du coup, alors quand il y a des petites inondations, alors...
Donc ces aménagements, ils ont du sens quand il y a des petites inondations pour vraiment être sûr que bah, tous les 20 ans, on ne soit pas inondé. Mais il faut vraiment, par contre, qu'ils soient faits avec, en amont de ces aménagements, des zones d'immersion pour lesquelles les cours d'eau vont pouvoir vraiment s'épancher au maximum de leurs possibilités sans créer de dégâts. Donc là, c'est vraiment important d'arrêter de mettre des infrastructures d'intérêt dans ces zones inondables, d'arrêter de construire dans ces zones inondables. Il faut vraiment laisser des zones où le cours d'eau va pouvoir naturellement prendre sa place en cas d'inondation sans créer des dégâts financiers et humains majeurs.
Ouais. Mais après ce qui s'est passé en juillet 2021, ne me dis pas qu'on n'a pas appris la leçon, ça m'étonnerait quand même qu'on ait continué à construire dans les zones inondables.
Bah écoute, tu serais bien étonné Arnaud, ça je vais peut-être te laisser aborder le sujet avec nos collègues d'aménagement du territoire, mais donc ça continue vraiment, la construction en zone inondable, on n'a pas du tout vu de frein après les inondations. Il y a une circulaire qui a été publiée par le ministre de l'aménagement du territoire qui réglementait un peu ça, mais finalement dans cette circulaire, les conditions pour lesquelles une construction ne serait pas autorisée parce qu'on est en zone inondable, elles sont hyper restrictives et donc en fait ça se rend compte jamais. Donc pour le moment, il y a toujours autant de permis qui sont délivrés dans les zones inondables. Ouais.
Mais en plus, arrête-moi si je me trompe, mais on va plutôt vers un monde où il y aura plus d'inondations comme celle de juillet 2021 ou pas?
Ça dépend un petit peu des scénarios climatiques, mais en tout cas dans... Si on prend un scénario à plus de degrés, ouais, on va voir une intensification de ce genre de phénomène d'inondation. À l'Université de Liège, ils ont fait des modélisations. La crue qu'on a eue en 2021, on avait une chance tous les 100 ans de l'avoir. On appelle ça la crue centennale parce que chaque année, on a une chance sur 100 de l'avoir. Et puis maintenant, avec les scénarios climatiques, ils estiment que ça va être une crue dont la fréquence sera peut-être tous les 20 ans. Donc chaque année, on aura une chance sur 20 ou une chance sur 30 de l'avoir.
Donc clairement, il y a un risque beaucoup plus important. Ce qu'on a eu en juillet 2021, on risque de le revoir tous les 20 ans, parce qu'on est bien placé pour le savoir à Canopéa, dans le monde à 2 degrés, plus 2 degrés d'augmentation de la température, on y est pratiquement.
Ouais, oui, clairement.
On est déjà à plus 1,4 degrés d'augmentation de la température moyenne, donc on est déjà à ce monde-là. Donc dans les prochaines 20 années, il va y avoir, selon ces...
C'est beaucoup plus probable que ce genre de phénomène soit beaucoup plus fréquent.
Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce nouveau monde, ce monde dans lequel on est, où il va y avoir beaucoup plus de ces inondations, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec nos rivières? Il faut faire ces zones de dégagement, zones qui laissent la place à la rivière s'étendre en cas de crue?
Ouais, il faut absolument mieux gérer l'eau dans notre territoire. On a été dans une politique où on cherchait à évacuer l'eau très très vite, où on avait tous nos réseaux de gouttières qui allaient directement à l'égout, qui allaient directement à la rivière, pour essayer d'évacuer l'eau le plus vite. Or là, on se rend compte qu'il faut vraiment changer de paradigme et essayer vraiment de ralentir l'eau partout où on peut pour éviter justement d'avoir ces effets de ruissellement massif vers les fonds de vallée. Et donc ça veut dire au sein des villes avoir beaucoup plus de jardins de pluie, des villes éponges, des villes qui vont pouvoir être capables de stocker l'eau et pas simplement où l'eau va être dirigée vers un réseau d'égout et évacuée. Ça veut dire aussi limiter à fond notre aménagement du territoire et notre bétonisation, parce qu'à chaque fois que tu urbanises une surface...
Cette bétonisation, de nouveau, ça affluent là-dessus.
Oui, ouais, à chaque fois que tu vas artificialiser une surface, c'est une surface dans laquelle l'eau ne pourra plus être stockée et puis pénétrer doucement vers le souterrain. Et donc c'est une surface sur laquelle l'eau va tomber, puis ruisseler directement. Et donc ça, c'est vraiment important, du coup, à la fois de maintenir ces eaux, je veux dire, sur l'amont des bassins, de maintenir des zones de stockage d'eau, de maintenir des zones mi qui vont pouvoir vraiment jouer ce rôle de zone tampon.
Les hautes-fagnes, typiquement, par exemple.
Oui, les hautes-fagnes, mais ça peut se faire partout, en fait. Tu vois, ça peut vraiment se faire sur tous les bassins. Ça peut aussi se faire dans les régions agricoles, etc. On peut vraiment imaginer de mieux ralentir l'écoulement des eaux en mettant des haies qui sont perpendiculaires à la pente, en mettant des bandes enherbées qui vont vraiment jouer un rôle de frein. Et puis alors, une fois qu'on est dans la vallée, là, permettre des zones, laisser des zones qui vont permettre au cours d'eau de s'épancher. Ouais.
Donc pour éviter les inondations, il y a vraiment un travail tout en amont, d'essayer de changer les pratiques agricoles. De nouveau, on est là-dessus. L'agriculture va jouer un gros rôle aussi sur ces questions d'innovation.
Oui, la clé pour moi, c'est vraiment les questions d'aménagement du territoire, mais l'agriculture va effectivement jouer un super grand rôle, puisqu'on a, dans les régions de culture, pour le moment, ce n'est pas le cas dans les régions de prairies, dans les régions de culture, on voit vraiment une érosion massive du sol. Et donc le sol est beaucoup moins capable de stocker l'eau, de retenir l'eau. Il est beaucoup moins cohérent. Et donc, dès qu'il y a une pluie qui tombe dessus, il y a une partie de la terre qui part avec. Donc les sols sont nus. On voit tout le temps, tu sais, ces champs de patates avec toutes les buttes bien droites, toutes avec la terre qui est vraiment apparente, quoi. Ça, dès qu'il y a une pluie un peu intensive, tu as une partie de la terre qui part, donc tu as une érosion du sol, et le sol est beaucoup moins capable de garder l'eau, ce qui va faire aussi qu'il va être moins capable d'infiltrer cette eau. Donc toute l'eau qui va être ruisselée, elle ne va pas pouvoir s'infiltrer après, et donc on va aggraver un peu le problème dont on parlait tantôt, de quantité de ressources en eau.
Et le problème, si je te comprends bien, c'est que si on transforme ce champ de patates en un beau parking avec un beau zoning commercial, ça n'améliore pas la situation.
Ah ouais, non, c'est carrément pire. Mais du coup, pour tout ce qui est agricole, il y a plusieurs méthode, on appelle ça l'agriculture de conservation, qui permettent vraiment de faire en sorte qu'on ait des sols qui soient tout le temps couverts. Il y a aussi tout un, une habitude de mettre en place des cultures intermédiaires. Donc quand tu as fini ta culture d'été, tu replantes un couvert végétal qui va permettre au sol d'être couvert pendant l'hiver pour limiter justement cette phénomène d'érosion.
Alors on a beaucoup parlé des inondations, du problème qu'on a, l'énorme catastrophe qu'on a connue en juillet 2021 sur les inondations. On n'a pas encore beaucoup parlé du manque d'eau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on pourrait connaître en Belgique dans les prochaines années?
Alors ça dépend si on parle en Belgique ou en Wallonie, c'est vraiment différent parce que entre la Flandre et la Wallonie, on a une différence qui est énorme dans notre géologie. Donc là où en Wallonie, on a vraiment beaucoup de sous-sol qui est capable de stocker de l'eau, c'est pas du tout le cas pour la Flandre. Et donc la Flandre s'est retrouvée sur les dernières années pas mal de fois en pénurie d'eau, ce qui a moins été le cas pour la Wallonie. Alors moi, je me focusais vraiment sur la Wallonie puisque c'est ça que je connais le mieux. Là, le risque... En termes d'approvisionnement, pour le moment, le risque n'est pas très important. Il y a plusieurs communes qui ont été en pénurie d'eau sur les dernières années. C'est des communes pour les, principalement en Ardennes, en Gaume, pour lesquelles c'est la commune qui est responsable de la distribution d'eau. Donc la distribution d'eau, c'est une compétence communale, mais il y a beaucoup de communes qui sont mises ensemble pour former des grosses intercommunales. Ça a devenu la SWDE, donc la Société Wallonne de Distribution des Eaux. C'est devenu la SIL, qui alimente toute la région de Liège. Il y a certaines communes qui ont décidé de garder cette compétence propre, et qui du coup sont un peu limités sur leur territoire dans les ressources d'eau voilà, qu'elles peuvent exploiter pour nourrir leurs habitants, pour abreuver leurs habitants, si je veux dire c'est comme ça. Donc pour ces communes, il y a eu plusieurs communes qui ont dû mettre en place des restrictions, mais ce n'est pas le cas de l'entièreté de la région. Et maintenant, il y a toute une politique de, on appelle ça les autoroutes de l'eau, qui ont été mises en place par les distributeurs et par la ministre Tellier, pour essayer justement d'interconnecter toutes les zones de Wallonie pour que les zones qui ont moins de ressources souterraines en eau puissent être alimentées par les zones qui en possèdent le plus.
Donc en gros, on va pas avoir des méga bassines comme on a eu à Sainte-Soline en France, pour ceux qui ont un peu suivi, c'est des méga bassines qui visent à garder les réserves d'eau en cas de pluie les jours où il y a de la sécheresse.
Ça, c'est un cas pour moi encore différent. Donc là, je parlais vraiment de l'aspect distribution aux habitants. Donc là, clairement, il y a eu un décret sur la priorisation des usages de l'eau où on dit bien que c'est la top priorité, c'est de maintenir la distribution publique d'eau potable. Pour les aspects agricoles et l'irrigation, ce qu'il y a eu à Sainte-Soline, nous, on n'est pas encore confrontés à ça. Pour le moment, les besoins en eau pour l'agriculture, c'est que 1% des besoins en eau en Wallonie. Donc ça reste hyper faible.
Oui, c'est très faible.
C'est hyper faible. Pourquoi ?
Parce que dans les grandes cultures, c'est étonnant ce chiffre.
Oui, mais dans notre climat actuel, il pleut plus ou moins la même quantité chaque mois. En termes de millimètres de pluie tombée, c'est plus ou moins la même quantité chaque mois. À la fois, en été, on a plus des grosses douches, des gros orages. En hiver, c'est plus de la petite bruine et de la neige. Et donc, dans le climat actuel, si tu regardes vraiment en Wallonie, il pleut la même quantité chaque mois. Ce qui fait qu'il y a moins besoin d'irrigation, ce qui n'est pas le cas pour le sud de la France, où tu as vraiment plutôt un phénomène d'été sec et puis d'hiver plus pluvieux. Mais ça, on sait que ça va évoluer, clairement, avec les dérèglements climatiques. Il va y avoir beaucoup moins de régularité dans ces précipitations. Et donc, on va avoir des besoins d'irrigation qui vont augmenter. Alors maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'on ne se trouve pas dans les mêmes situations qu'en France et d'anticiper ça pour faire en sorte que les besoins en irrigation, ils augmentent pas autant que ce qu'ils ont fait en France, en choisissant beaucoup mieux nos cultures et de nouveau en mettant en place des aménagements qui vont permettre de stocker l'eau de pluie pour l'utiliser dans les cultures. Le cas des bassines, ce n'était pas du stockage d'eau de pluie, c'était de capter de l'eau souterraine en hiver, la mettre en surface, pouvoir l'utiliser en été. Avec du coup un phénomène d'évaporation qui est juste dingue. Enfin, ça n'a aucun sens de dire que tu as des ressources qui sont bien protégées dans le souterrain, tu vas aller les mettre au soleil pour qu'elles s'échauffent, pour qu'il y ait un développement bactérien, juste pour pouvoir les utiliser en cas de sécheresse.
Alors la question, elle est très simple. Qui paye aujourd'hui pour qu'on ait de l'eau qui coule dans nos robinets? Est-ce que c'est uniquement le consommateur ou alors les agriculteurs ou l'industrie?
Pour qu'on ait de l'eau du robinet, c'est les utilisateurs. Donc c'est quand tu payes ta facture d'eau, tu payes exactement ce que ça a coûté d'extraire l'eau, de la mettre dans le réseau de distribution, de l'amener chez toi, mais aussi ce que ça coûte de la reprendre de chez toi, de l'épurer et de la mettre à la rivière. Donc vraiment, celui qui paye le service de distribution d'eau, c'est la facture d'eau. Donc là, pour le moment, on est plus ou moins à 5 euros du mètre cube en Wallonie. C'est quand même élevé par rapport à d'autres régions d'Europe, mais voilà, c'est exactement ce que ça coûte. Ça s'appelle le coût vérité. Par contre, pour tout ce qui est pollution, On a des objectifs européens qui sont que d'ici 2027, toutes nos masses d'eau doivent être en bon état. Ça, c'est l'objectif. On n'y est pas du tout. On en a parlé. Et surtout, on ne voit pas d'évolution favorable. Surtout, c'est ça qui pose question, clairement. Et alors là, pour tout ce qui est prise en compte de ces pollutions, là, on voit vraiment une disparité entre les secteurs qui polluent le plus et ceux qui sont le plus capables de payer pour cette épuration ou cette dépollution. Tu vois. Et donc, pour le moment, on a des secteurs des ménages, on l'a dit, qui polluent via les rejets dans les stations d'épuration, on en a un petit peu parlé. On voit que ça diminue vraiment au cours des années, cette pollution, puisque les stations d'épuration maintenant sont super effectives, mais c'est payé par le consommateur. Donc le prix de l'eau, il a fort augmenté parce qu'il a fallu investir dans ces stations d'épuration. Donc là, on peut dire maintenant que le citoyen, il est réglo parce que bah il pollue, on a dû mettre des stations d'épuration, mais il paye pour ça, donc c'est bon. Par contre, le secteur agricole et industriel, ont des rejets super importants sur la qualité de l'eau, ont des impacts importants sur la qualité de l'eau et payent moins que ce que coûte finalement le financement des politiques qui visent à améliorer la qualité de l'eau. Alors dans le cas des agriculteurs, on sait que c'est un secteur qui a du mal à financer ça. Il y a des tensions, c'est un secteur qui n'est pas, enfin, je veux dire, c'est un secteur qui est pas riche. Par contre, dans le secteur industriel, on sait que si on regarde finalement leur capacité à payer pour cette opération vis-à-vis de la pollution qu'ils créent, on est vraiment en deçà de ce qu'ils devraient faire. Quoi.
Donc il y a un problème de répartition sur qui paye la pollution de l'eau aujourd'hui qu'on subit.
C'est ça, et donc finalement, tout ce qui n'est pas payé par le secteur industriel ou le secteur agricole, donc je répète, le secteur agricole, il ne paye pas autant que ce qu'il devrait, mais il n'a peut-être pas les moyens, tandis que le secteur industriel, il ne paye pas autant que ce qu'il devrait, mais lui, pour le coup, les chiffres montrent qu'ils ont vraiment les épaules pour pouvoir supporter ces coûts-là. Bah, ce qui n'est pas pris en compte pour le moment par ces deux secteurs, il l'est pris en partie par le citoyen, via directement la facture d'eau, mais surtout via les politiques publiques qui sont du coup financées aussi par le citoyen. Et donc pour le moment, c'est vraiment de l'argent public qui est mis en place pour essayer de récupérer cette pollution.
De pallier aux pollutions des différents acteurs. Pour finir, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de hauteur. On est en 2050, on est en Wallonie, mais regardons même un peu au-delà de la Wallonie. On voit que dans certaines régions, je pense au sud de la France, il y a vraiment des gros problèmes d'eau. La Flandre, tu l'as cité, a des gros problèmes en approvisionnement en eau. Est-ce qu'on va devenir le super exportateur d'eau à l'horizon 2050? Et si oui, est-ce qu'à un moment, on risque pas un peu de taper trop dans la ressource?
Je crois pas qu'on va devenir le super gros exportateur, non. Il y a peu de chances parce que la taille de notre territoire, elle est quand même vraiment hyper réduite. Donc pour le moment, on peut approvisionner une partie de la Flandre et une partie de et Bruxelles. Donc on exporte déjà hors de la région, mais je crois pas qu'on va pouvoir exporter hors de Belgique, clairement pas. On n'a pas les ressources suffisantes. Et donc au niveau européen, il va falloir vraiment penser à des politiques beaucoup plus résilientes sur la quantité d'eau, donc diminuer à fond les consommations. Les consommations d'eau des ménages, elles chutent très fort. On voit vraiment maintenant c'est en stabilisation, on a vu vraiment une diminution de l'utilisation d'eau par les ménages, principalement due à toute une nouvelle génération d'appareils électroménagers, lave-vaisselle, machines à laver qui consomment moins d'eau, clairement. Donc ça, on a vu vraiment une diminution. Par contre, au niveau du secteur industriel, on sait qu'il faut que ça diminue. Le secteur agricole, on a vu qu'avec les dérèglements climatiques, ça risquait d'augmenter. Or, il faudrait plutôt diminuer la pression sur la ressource. Donc tout ça, c'est des enjeux qu'il va falloir se poser, des questions qu'il va falloir se poser à l'échelle européenne. Comment est-ce qu'on limite nos pressions sur la ressource tout en voulant maintenir une agriculture qui a peut-être besoin d'irrigation? Comment est-ce qu'on répartit ça sur le territoire?
Ok, ce sera la question finale. En tout cas, merci beaucoup Agathe pour cette demi-heure. J'espère que ça a aidé nos auditeurs à y voir un peu plus clair sur cette question fondamentale de l'eau à l'échelle wallonne. On se retrouve certainement un peu plus tard pour un prochain podcast avec Canopéa sur des questions environnementales. Bonne journée à tous.
Merci Arnaud.
Canopod, focus sur l'actualité environnementale.